8h30 à Paris, l'heure du débat du soir avec Romain Ozoui. Bonsoir Romain.
Bonsoir Véronique. Et ce soir, dans le débat du jour, nous parlons dissuasion nucléaire.
Le débat du jour. Romain Ozoui.
Oui, la dissuasion nucléaire, voilà un terme qui revient régulièrement dans l'actualité ces derniers jours. Il en était question d'ailleurs pas plus tard qu'aujourd'hui, lors d'une réunion à Paris des ministres de la Défense français, allemand, italien, polonais et britannique. La question est simple, hein, jusqu'où faut-il aller pour assurer la sécurité européenne après le désengagement des États-Unis? Notre débat ce soir, faut-il partager la dissuasion nucléaire française? Faut-il l'étendre? Un appel dans ce sens a été lancé par le futur chancelier allemand Friedrich Merz. Le président français Emmanuel Macron lui a répondu en disant qu'il était pour l'ouverture d'un débat stratégique sur cette question de l'extension de la dissuasion nucléaire. Comment cela se traduirait-il? Est-ce que cela apporterait une réponse crédible à une possible menace russe? Car c'est tout l'enjeu. Eh bien, soyez les bienvenus dans le débat du jour. Et pour répondre à ces questions, nos trois invités ce soir, à mes côtés en studio, Benjamin Haute-Couverture, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes maître de recherche à la Fondation pour la recherche stratégique. Nos deux autres invités sont en ligne avec nous. Bonsoir Étienne Marcuse.
Bonsoir.
Spécialiste des armements stratégiques. Et Yannick Pincé, notre troisième invité, également en ligne avec nous ce soir. Bonsoir.
Bonsoir.
Chercheur au Centre interdisciplinaire sur les enjeux stratégiques, docteur en histoire contemporaine spécialisé dans le nucléaire militaire et les questions politico-stratégiques. Merci à vous trois d'avoir accepté l'invitation du débat du jour sur RFI. Benjamin Haute-Couverture, pour débuter, l'extension de la dissuasion nucléaire française, ça signifie quoi? Comment ça se manifesterait?
Oui, alors... vous avez raison de poser cette question et essayons d'être simple. Parce que vous savez, souvent, depuis d'ailleurs deux semaines à peu près que la question se met à se poser, avec acuité disons, elle achoppe sur une simple question de vocabulaire. C'est-à-dire qu'on ne sait pas exactement de quoi on parle. Ouais. Et quand on parle d'extension, par exemple, on ne parle pas d'élargissement. Et je m'explique tout de suite.
On ne parle pas de partage non plus.
Peut-être éventuellement différent. Mais vous savez, commençons déjà par l'élargissement. Okay. C'est un terme important parce que on parle de dissuasion élargie, qui est la traduction d'un terme américain, anglais, qui est « extended deterrence ». Et ça, ça veut dire dissuasion élargie. Ouais. Génériquement, historiquement, le format de la dissuasion nucléaire française s'est fait par opposition au modèle américain de dissuasion élargie. Notre dissuasion à nous, elle est dite centrale, par opposition au modèle élargi.
Ça veut dire qu'on ne peut pas l'élargir.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes censés, avec le format capacitaire de, notre force de frappe, protéger les intérêts vitaux de la nation dans un format dit de stricte suffisance. Tous les termes sont importants.
Donc on ne peut pas étendre la dissuasion nucléaire française?
Non, on peut l'étendre. Okay. Et elle est déjà étendue, figurez-vous. Depuis, officiellement, le sommet d'Ottawa de l'OTAN de 1974, les forces françaises nucléaires, comme les forces britanniques nucléaires, sont dites renforcer la posture de dissuasion nucléaire de l'OTAN. Et c'est le cas depuis lors. Ça veut dire que ça fait 50 ans que ça dure cette histoire. Donc ça veut dire que notre dissuasion nucléaire, elle est déjà étendue. Elle a pris...
Donc la question, c'est est-ce qu'il faut davantage d'étendre?
La question, c'est de savoir ce que cette extension... qu'on appelle également, dans le langage officiel français depuis un certain nombre de discours présidentiels, pour Emmanuel Macron, c'est le discours de l'école de guerre de février 2020, on parle de la dimension européenne de la dissuasion nucléaire. Mais ça n'a pas été inventé par Emmanuel Macron. Ça avait été dit par François Hollande, ça avait été dit par Nicolas Sarkozy, et ça avait commencé par être dit par le président Chirac. Cette dimension européenne, l'enjeu aujourd'hui, c'est de savoir comment... est-ce qu'on la traduit dans sa forme opérative? C'est ça l'enjeu. Comment est-ce que cette extension se traduit de manière opérative dans le cadre de l'engagement de force sur le terrain? Qu'est-ce qu'un militaire comprend de ça quand il est en Estonie?
C'est comment ça, elle pourrait se traduire?
C'est ça l'enjeu de la discussion.
Et comment pourrait-elle se traduire?
Alors, peut-être que là, on peut ouvrir cette discussion. Les forces françaises, pour le moment, vous le savez, c'est un peu moins de 300 têtes. Un peu moins de 300 têtes nucléaires, avec des puissances qui vont de 100 kilotonnes à 300 kilotonnes, et qui équipent soit des missiles de croisière ASMP-A rénovés sur nos rafales, soit des missiles balistiques intercontinentaux sur M51 incrément 3, excusez-moi pour le jargon, sur, mais tout de même c'est important, parce que ce sont des missiles balistiques intercontinentaux, c'est important, c'est pas des missiles de croisière, c'est pas la même chose, sur nos sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, il y en a 4. Et ces missiles-là, missiles de croisière, missiles balistiques, font la posture nucléaire française. C'est notre format. Et pour le moment, on ne va pas pouvoir développer davantage d'armes. Les Américains, par exemple, eux, ont une posture de dissuasion élargie de contre-force. C'est-à-dire qu'ils sont capables de cibler à peu près 1 000 000 de cibles. Et donc, ils ont besoin de davantage d'armes que nous. Nous, ce n'est pas ça. Notre force, elle est toujours fondée sur la dissuasion qu'on appelait à l'époque du faible au fort dans les années 60 et qu'on a appelé par la suite une dissuasion asymétrique. Donc ça veut dire maintenant que notre enjeu pour nous, c'est comment fait-on participer les États qui le souhaitent, les États baltes, les Polonais, les Allemands, quelques autres, à ce format qui existe déjà.
Et comment on peut les faire participer ? Est-ce qu'on les fait participer ? Comment on peut les faire participer ? En gros, ce que vous nous dites, c'est que l'enjeu, c'est est-ce que les missiles français, on les déploie dans d'autres pays ?
Pas seulement. D'abord, éventuellement, ce serait un enjeu, mais pas seulement. Par exemple, sur le plan opératif, est-ce que c'est vraiment nécessaire de les déployer sur un autre pays, dans un autre pays ? Ben non. Le M51-3, par exemple, il a une allonge de quasiment 10 000 km. Vous avez besoin.
Il peut rester en France.
Mais il ne reste pas en France. On ne sait jamais où il est. Si ça se trouve, en ce moment, il est dans l'Arctique, ou il est dans le Pacifique, il est n'importe où. De toute façon, il touchera sa cible. Ça n'a pas forcément de sens, vous voyez ? Donc, la discussion s'ouvre. Ouais. Qu'est-ce qu'a dit le président ? Le président a dit qu'il faudrait ouvrir une discussion sur des nouvelles capacités de dissuasion. C'est très large. Ça veut dire que chaque pays intéressé va venir en posant ses questions. Et on va voir ce qu'il en ressort.
Et il en ressortira, pas forcément. Ça peut prendre des années. La menace russe, elle est. Elle peut être à court terme.
Mais vous savez, le renforcement de la dissuasion dans le cadre de l'OTAN, ça commence en 2012. Ça fait longtemps que cette histoire dure. La modernisation de la force française, elle date de la première LPM, de loi de programmation militaire de 2019-2024. Notre budget, il est passé de 3 milliards à 6 milliards. Tout est en cours. On n'a pas attendu le 28 février et ce qui s'est passé dans le bureau de la Maison Blanche pour lancer la modernisation de nos forces. Tout est en cours. Mais évidemment que c'est assez long. Oui, bien sûr. Mais les Russes ne vont pas attaquer demain Tallinn. Non. C'est pas vrai.
Étienne Marcuse, alors, vous êtes d'accord avec un petit peu la première intervention de Benjamin haute couverture? Finalement, il n'y a rien de révolutionnaire dans cette question d'étendre la dissuasion nucléaire française aujourd'hui?
Alors, tout à fait, effectivement, cette dimension européenne existe. Même le général de Gaulle en parlait à l'époque, donc c'est quelque chose d'ancien. Après, maintenant, effectivement, là, on entre dans une période beaucoup plus trouble où il serait peut-être nécessaire de mieux expliciter cette dimension européenne, notamment pour assurer nos alliés. Après, concernant le format en tant que tel, il faut savoir, par exemple, que la Chine, pendant des décennies, se contentait de moins de 200 têtes nucléaires qu'elle estimait suffisant comme format pour dissuader un adversaire comme les États-Unis.
Alors que les États-Unis en ont beaucoup plus. La Russie en a beaucoup plus que la France. Et le Royaume-Uni réuni, qui sont les deux acteurs sur le continent dotés de l'arme nucléaire.
Et donc, tout ça, c'est parce que chaque pays a sa propre doctrine. Comme le disait Benjamin de haute couverture, les États-Unis, tout comme la Russie, ont une doctrine qui s'appelle contre-force, c'est-à-dire la possibilité de neutraliser l'arsenal adverse avec ses propres armes nucléaires. Nous sommes dans une logique de contre-valeur, donc de neutraliser les centres de pouvoir adverses. La Chine, pendant longtemps, c'était du contre-population, donc c'était la possibilité de neutraliser les centres de population adverses, et pour ça, vous n'avez pas besoin d'énormément de têtes. Donc tout ça pour dire que 290 têtes, c'est le format, effectivement, c'est la stricte suffisante, c'est ce qui a été estimé suffisant pour infliger des dégâts inacceptables à n'importe quel adversaire. Et au final, on va dire que ces dégâts seront aussi inacceptables que la Russie s'attaque à la France que si elle s'attaquait à un autre pays européen, puisque ça reste des dommages inacceptables. On imagine, même si c'est une comparaison un peu hasardeuse, mais c'est plusieurs milliers de fois la puissance de destruction d'Hiroshima. Bon, voilà, on imagine mal un pays se relever d'une telle attaque. Après, ce qui manque pour effectivement avoir une protection crédible, c'est une flexibilité. Parce qu'on ne va pas forcément répondre de la même manière à une attaque massive sur le territoire national ou contre, par exemple, une attaque limitée contre un pays balte. Et c'est là où il faudrait gagner en flexibilité, et c'est là également que les autres partenaires européens ont quelque chose à apporter, puisqu'il faut adosser ces capacités nucléaires à des capacités conventionnelles crédibles, qui seraient fédérées au niveau européen, enfin pas forcément fédérées, mais au moins mises dans un pot commun, pour pouvoir justement dissuader la Russie de mener des opérations soit limitées, soit contre un seul État, voilà, au moyen d'armes conventionnelles.
C'est ce que vous appelez l'initiative européenne de dissuasion, Étienne Marcus, vous avez fait cette proposition de la création d'une initiative européenne de discussion intégrée.
De dissuasion intégrée,
qui regrouperait les pays du continent qui s'appuieraient sur les armes nucléaires de la France et du Royaume-Uni, dans le sens où, effectivement, la Russie dispose de 20 fois plus d'ogives nucléaires que la France. Donc, pour reformuler ce que vous nous dites, l'idée, c'est frapper l'adversaire avec de l'armement conventionnel et, si c'est nécessaire, s'appuyer sur les têtes nucléaires de la France. Malgré l'écart de puissance nucléaire, cela suffit à répondre à la menace russe ?
Alors, déjà, il faut savoir que... pourquoi est-ce qu'il y a eu tant d'armement nucléaire pendant la guerre froide ? Déjà parce que c'était une arme nouvelle et elle paraissait fantastique, avec un pouvoir de dissuasion énorme. Mais aussi, on s'est aussi rendu compte qu'elle était difficilement utilisable du fait notamment de ce pouvoir exceptionnel. Et donc, il y a pas une grande flexibilité d'emploi. Ouais. On voit, ça n'a jamais été utilisé opérationnellement depuis Nagasaki. Donc, ça, en fait, ces armes nucléaires permettaient notamment de compenser une faible précision des armes de l'époque. De nos jours, on le voit, des armes de très haute précision. On l'a vu en Ukraine, on le voit dans toutes les interventions militaires des pays occidentaux. Maintenant, on est en mesure de détruire des cibles qui nécessitaient à l'époque des armements nucléaires, que ce soit par exemple des bunkers, des centres de commandement, ce genre de cibles, par exemple. Voilà, maintenant, on peut les détruire uniquement avec des moyens conventionnels. Et c'est pour ça, en fait, si les pays européens se dotaient d'une force de frappe stratégique conventionnelle, elle serait en mesure d'infliger des dégâts d'ordre stratégique à la Russie sans avoir à recourir à l'arme nucléaire dans un premier temps. Et ça pourrait être un premier signal très fort qui permettrait également d'impliquer l'ensemble des pays européens dans les frappes et non plus uniquement la France ou le Royaume-Uni.
Yannick Pincé, est-ce que ça, c'est le bon projet, entre guillemets, s'appuyer sur l'armement traditionnel et évidemment, si besoin, utiliser cette dissuasion nucléaire ? Est-ce que c'est ainsi que l'extension de la dissuasion nucléaire française doit être pensée ?
Ce qui est intéressant, c'est que, bon, je vais m'exprimer d'un point de vue d'historien, c'est qu'on retourne en fait sur un débat en fait qui est très très ancien. Du temps de la guerre froide, on a eu un débat majeur en France qui a été un petit peu évoqué par Benjamin de Haute Couverture, qui était l'opposition entre notre dissuasion qui montait très rapidement aux extrêmes. On a souvent pensé en France la dissuasion comme exclusivement nucléaire, et on le pense encore comme ceci, et la stratégie de nos alliés, notamment la stratégie de l'OTAN, qui incluait toute une gamme d'options depuis la guerre conventionnelle jusqu'aux frappes de nucléaire tactique, puis au nucléaire stratégique. Et en fait, si on en revient à se poser cette question, c'est parce que nous, d'un point de vue français, la dimension de nos intérêts vitaux a complètement changé. Nos intérêts vitaux, du temps de la guerre froide, ils étaient entre les deux Allemagnes, c'est-à-dire à 150-200 kilomètres, et il n'y avait pas d'ambiguïté qu'une invasion qui franchirait le rideau de fer allait ensuite toucher le territoire français. Maintenant, on parle d'intérêts vitaux, si on les étend à une dimension européenne, qui sont à 2000 kilomètres, ce qui nous oblige en fait à penser une dissuasion qui serait plus crédible et qui intègre donc, comme l'a souligné Étienne Marcus tout à l'heure, des options qui montreraient que les Français, en fait, ne vont pas riposter avec tout leur arsenal nucléaire en cas d'attaque limitée contre les pays baltes. Donc c'est une option qu'il faut très sérieusement envisager, c'est-à-dire penser cette dimension, cette dissuasion sous forme intégrée, qui est un concept d'ailleurs qu'avait développé l'administration Biden, c'est-à-dire répondre en fait pas seulement en dehors du spectre nucléaire.
Spectre nucléaire, c'est intéressant de terminer avec ces mots-là. Benjamin de Couverture, on a l'impression que c'est un mot qui fait peur. Pourquoi est-ce qu'on pose cette question de est-ce qu'il faut étendre la dissuasion nucléaire française ? Il y a eu énormément de réactions sur le plan intérieur en France en disant oh là là, attends, ça veut dire déplacer le bouton nucléaire en dehors de la France. Est-ce que vous pouvez rassurer ou expliquer justement, il n'en est pas question et à quel point finalement on peut étendre la dissuasion nucléaire française, elle reste française ?
Oui, bien sûr.
De A à Z.
Oui, bien sûr. Alors ça, c'est une question qui a effectivement été ouverte par tous les commentateurs tout de suite. Tout le monde s'est rué sur la question, sur cet aspect-là, sur cet enjeu-là. Est-ce qu'on va devoir partager la décision ? Est-ce qu'on va devoir partager la souveraineté ? La question, la réponse est non. Comme ça, au moins, c'est simple. Non seulement le président ne l'a pas dit, mais ensuite, le ministre de la Défense, Le Cornu, a insisté là-dessus. Non, ce ne sera pas le cas. Ce ne sera jamais le cas. C'est même pas un tabou.
La dissuasion nucléaire est française, elle le restera.
Voilà, c'est même pas un tabou, c'est même pas un sujet. Bien. Donc, la question ne se pose pas du partage de la décision. La question ne se pose pas de non plus de d'imaginer que pour une agression normalement pour nous sous le seuil de nos intérêts vitaux, mais qui toucherait à l'intégrité territoriale d'un pays balte, on soit contraint d'utiliser une arme de 100 kilotonnes. Ça n'a pas de sens. Comme le disaient mes deux confrères, la question qui se pose, c'est surtout la question de la flexibilité de notre réponse en fonction des différents seuils de dissuasion qu'on veut atteindre dans la montée d'une escalade normale sous le seuil nucléaire, disons. Je ne banalise pas à dessein, hein, mais je pose vraiment les termes pour montrer que cet enjeu de dissuasif, c'est un enjeu qui est principalement infra-nucléaire, sous le seuil nucléaire, c'est-à-dire un peu ce qui a été dit tout à l'heure. Et votre dernier intervenant a dit quelque chose de très important, c'est cette notion de dissuasion intégrée qui fait partie de la dernière revue de défense de Biden de 2022. Finalement, il dit quoi ? Il dit qu'il faut pouvoir dissuader un ennemi à venir sur tout le spectre, parce qu'effectivement, le spectre, c'est le jargon militaire qui indique qu'il faut pouvoir dissuader dans tous les domaines terrestres, navals, aériens, cyber, spatial, et pas seulement le nucléaire. Et donc cette notion d'intégration de la dissuasion de telle sorte qu'un adversaire ou un ennemi ou un rival soit découragé à peu près chaque stade d'une conflictualité ou d'une adversité est devenu l'enjeu principal de la dissuasion. Et pendant longtemps, les Français ont été un petit peu hors champ parce que pour nous, il y avait la dissuasion nucléaire ou rien d'autre. Et on se disait, les cimetières, comme Margaret Thatcher, rappelez-vous, les cimetières sont remplis de ceux qui ont cru à la dissuasion conventionnelle. Mais ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, si on ne complète pas notre dispositif de dissuasion nucléaire par un dispositif de dissuasion conventionnelle fondée sur les nouveaux systèmes d'armement, en particulier les armes conventionnelles de très haute précision qui peuvent atteindre la profondeur d'un théâtre, alors c'est qu'on est à côté des enjeux les plus contemporains de notre défense.
RFI, le débat du jour, Romain Ozoui.
Faut-il étendre la dissuasion nucléaire française ? La question que l'on pose ce soir dans le débat du jour, qui était à l'ordre du jour notamment d'une réunion à Paris des ministres de la Défense français, allemand, italien, polonais et britannique. Et il y a un prochain sommet de l'Union européenne qui est prévu la semaine prochaine à Bruxelles. Et le président du Conseil européen a dit qu'à cette occasion, les dirigeants européens vont continuer à travailler en vue de construire notre dissuasion, je cite, pour renforcer la sécurité de notre continent. Parce qu'évidemment, cette question, elle se pose après le désengagement des États-Unis et dans le cadre de cette interrogation, comment assurer désormais la sécurité de l'Europe. Mes trois invités sont Benjamin Haute-Couverture, que l'on entendait, qui est maître de recherche à la Fondation pour la Recherche Stratégique, Étienne Marcuse, spécialiste des armements stratégiques, et Yannick Pincé, chercheur au Centre interdisciplinaire sur les enjeux stratégiques, docteur en histoire contemporaine, spécialiste dans le nucléaire militaire et les questions politico-stratégiques. Alors, on a vu finalement dans la première partie ce débat que l'extension de la dissuasion nucléaire française, finalement, elle existe déjà. Et la question est comment l'adapter à la future possible menace russe. Et ce que vous évoquiez, Benjamin Haute-Couverture, et que les deux autres invités ont également évoqué, c'est cette piste possible d'avoir un armement conventionnel et si c'est nécessaire, de s'appuyer sur les têtes nucléaires que la France possède, puisqu'on rappelle que la France est, avec le Royaume-Uni, une des deux seules puissance nucléaire sur le continent européen. Étienne Marcuse, vous aviez évoqué, et c'est un mot qui est revenu aussi dans la bouche de Benjamin Haute-Couverture, la flexibilité. Est-ce que c'est le principal défi, ça, par rapport à cette question de l'extension de la dissuasion nucléaire ? Comment rendre flexible cette dissuasion nucléaire pour concrètement pouvoir répondre à une menace russe si elle est là.
Tout à fait. Alors, à l'heure actuelle, la doctrine française prévoit deux étapes dans la gestion de l'escalade au niveau nucléaire. C'est un ultime avertissement. Donc, c'est une action unique, une action nucléaire unique pour signaler à l'adversaire qu'il a franchi un seuil, qu'il s'approche très dangereusement de nos intérêts vitaux. Et donc, on lui envoie comme signal une frappe nucléaire pour lui faire comprendre qu'on entre dans une nouvelle étape, un changement de paradigme. Et ensuite, s'il ne s'arrête pas là, on déclenche des représailles massives, donc c'est notamment lancer tout notre arsenal contre l'adversaire. Donc on voit bien que ça fonctionnait plutôt bien à l'époque, notamment soviétique, même encore récemment, quand il s'agissait de défendre uniquement le territoire national. En somme, si l'adversaire s'approchait très dangereusement de nos frontières, voilà, on signalait par un... ça peut être vu comme un coup d'arrêt qu'il s'approche et ensuite on attaque. Si là encore, on doit maintenant protéger par exemple un pays balte, c'est quand même plus complexe de passer tout de suite sur du nucléaire. Et c'est là où il faut qu'on possède des moyens de gérer l'escalade sans nécessairement tout de suite passer au nucléaire. Et par exemple, se pose la question de si la Russie, par exemple, décidait elle d'escalader en faisant une frappe limitée sur, par exemple, sur une cible militaire, est-ce que nous devrions répondre nous-mêmes tout de suite dans le nucléaire ? Et c'est ça, toutes ces questions de flexibilité. Et on pourrait compenser justement cela par l'acquisition de moyens de frappe dans la profondeur conventionnelle, qui, comme on le disait plus tôt, permettrait de frapper des cibles stratégiques. Alors, ça existe déjà. On a déjà des missiles de croisière, par exemple les fameux Scalp qui ont été fournis à l'Ukraine, ou la version navale, le MDCN, qui peuvent remplir ce rôle. Là, ça serait l'idée, c'est de se doter d'un arsenal beaucoup plus conséquent, complété avec notamment des missiles balistiques de moyenne portée, qui permettraient de menacer de nombreuses cibles stratégiques sur le territoire adverse sans avoir à rentrer tout de suite sur le nucléaire.
Mais ce que vous appelez cette flexibilité. En fait, finalement, ce que vous appelez flexibilité, on peut l'appeler ligne de direction. J'ai l'impression que c'est plus concret. C'est savoir quelle décision opérationnelle, quelle direction on prend finalement en cas de menace russe.
C'est vraiment garder de la liberté de manœuvre, offrir au pouvoir politique, puisque c'est toujours le pouvoir politique qui va décider in fine du type de réponse à apporter, d'offrir au pouvoir politique un panel de solutions qui lui permettront de répondre au plus juste à une menace précise. Et c'est ça, effectivement, qu'on appelle flexibilité. Ouais. C'est vraiment garder une liberté d'action.
Benjamin de Couverture, ça veut dire que c'est un très long chantier, si on en est là aujourd'hui, de savoir quelle direction on prendra finalement avec cette extension de la dissuasion nucléaire française.
Alors vous avez raison, c'est un long chantier, mais c'est un long chantier qui a déjà commencé. Hein. Ça veut dire que cette réflexion, en particulier sur les frappes conventionnelles dans la profondeur, par exemple, elle a donné lieu au lancement d'une initiative d'un missile spécifique avec les Allemands, les Italiens, les Polonais, qui a été annoncé en juillet 2024, par exemple, sous l'initiative française. Donc ça, vous voyez, et c'était et à l'époque, Donald Trump n'était pas encore élu président. Donc ça veut dire que cette réflexion-là stratégique en France, on l'a depuis une bonne dizaine d'années, en réalité. Mmh. Et déjà, le missile ASN-4G, qui va être le prochain missile qui équipera nos forces Rafale aéroportées à partir de 2035 à peu près, c'est un missile hautement supersonique. Pourquoi ? Parce qu'il faut qu'il aille très très vite, qu'il soit furtif, qu'il soit manœuvrable, pour échapper aux défenses antimissiles adverses qu'on imagine être d'un niveau technologique plus élevé dans les années 2035-2040. Donc ce qui est difficile de bien comprendre, c'est qu'il y a un timing qui est hyper lent dans ces histoires. Quand on veut savoir comment dissuader, on se dit, il va falloir comment est-ce qu'on va dissuader la Russie dans 20 ans. Les SNLE de troisième génération, dont la construction a commencé en 2021, nos sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, ils vont être fonctionnels jusqu'en 2080, imaginez. Enfin, je sais pas, moi je serais mort en tout cas, mais ça fonctionnera encore. Et donc, ce timing-là, il est à mettre en rapport avec une accélération du timing stratégique qui depuis 2-3 semaines, prend tout le monde de court. Mais en réalité, heureusement, on est quand même une démocratie et un pays industriel moderne et assez avancé. C'est des réflexions qu'on a, nous, depuis 10, 15, 20 ans.
Et est-ce que ce sont des réflexions qui sont, on va essayer de dézoomer, qui sont l'élément clé de la future défense européenne?
Ah oui, bien sûr.
C'est le premier élément de la future défense européenne. C'est l'enjeu pour assurer la sécurité du
continent. C'est l'enjeu, bien sûr, c'est l'enjeu. Et c'est ce que nous permet... Ce pourquoi nous pouvons nous le permettre, c'est l'avancée des technologies dont les pays européens eux-mêmes. Cette furtivité, cette manœuvrabilité, cette hypervélocité, on la maîtrise. Ouais. Et c'est parce qu'on la maîtrise qu'on peut être des forces de proposition. Mais je pense qu'il y a un enjeu aussi important pour nous Français. Je ne crois pas qu'on devrait aller, ça c'est personnellement, parce que je dis ça personnellement, et je ne dis pas que ça a été un choix, hein. Mais je pense qu'il y aurait un écueil pour nous à considérer que dans cette répartition des tâches européennes à venir, les Français seraient responsables de la dissuasion nucléaire et on laisserait aux autres le développement des moyens conventionnels. Si vous voulez, non, l'industrie française est particulièrement moderne, à la pointe, nous avons des filières d'excellence. Je ne crois pas que nous aurions intérêt à laisser ces développements aux autres, aux Allemands, aux Anglais, aux autres, pour dire, bah, écoutez, nous, on se concentre sur notre précaré que nous connaissons.
Chacun a ses responsabilités, mais je trouve, Yannick Pincé, que ça pose la question de l'unité de l'Union européenne qui est souvent mise à mal. Est-ce que les divisions de l'Europe peuvent nuire à ce projet d'extension de la dissuasion nucléaire française?
Oui, alors si vous permettez, je voudrais apporter une nuance
rapidement
à tout ce qui a été dit.
Rapidement, parce qu'il nous reste
une
minute.
Ah, excusez-moi. Non, pour la flexibilité, les options, c'est bien que le pouvoir politique en dispose, mais il s'agit avant tout de savoir quoi aligner pour empêcher d'arriver à la fin.
On a bien compris,
alors,
oui.
Sur votre question sur les divisions européennes, quand on parle en fait de nucléaire, si on parle de nucléaire, je vois en fait avant tout des solutions qui vont se faire au niveau bilatéral, ce qui permettrait d'avancer beaucoup plus vite. Tout simplement, quand on parle de dissuader en fait au niveau nucléaire, il s'agit d'être crédible vis-à-vis du potentiel adversaire et vis-à-vis de ceux que l'on dit protéger. Et donc, à ce moment-là, ça va se faire en fait par de la gesticulation, par du signalement, ça peut se faire par des exercices communs. Emmanuel Macron, dans son interview au Figaro, n'avait pas exclu la possibilité éventuelle de déploiement. Et là, si on veut aller très très vite là-dessus, eh bien, il faut aller par du bilatéral, ce qui permettrait en fait d'aller au-delà de cette question des divisions européennes et de mettre dans le coup aussi nos amis britanniques, qui sont quand même l'autre puissance nucléaire européenne, hors Union européenne. Et il faut le préciser, nos deux arsenaux additionnés, on dépasse les 500 têtes nucléaires et on est au-delà du niveau de la Chine, ce qui est quand même considérable.
Donc on est face à un projet embryonnaire, mais qui n'est pas nouveau, et en tout cas qui appelle à progresser et qui est l'élément clé, vous avez dit Benjamin de Couverture, évidemment, cette dissuasion, cette extension de la dissuasion nucléaire française, élément clé de la défense européenne de demain et la capacité à assurer la sécurité sur le vieux continent, suite évidemment aux désengagements américains. Merci à vous trois, Benjamin de Couverture, Étienne Marcus et Yannick Pincé, et merci à Florence Ponce qui était à la préparation de ce débat, et Claude Battista à sa réalisation. Rendez-vous sur RFI.fr pour réécouter ce débat du jour, le podcaster. Dans une minute, coup d'œil à la pendule, parce qu'il est déjà 18h58 ici à Paris. Dans une minute, ce sera le grand journal du soir avec Adrien Delgrange. Et puis, 30 minutes plus tard, ce sera Afrique Soir, la première édition de ce mercredi avec vous, Zéphirin Quadio. Bonsoir Zéphirin.
Bonsoir Romain, bonsoir à tous.
On peut jeter un coup d'œil au programme qui nous attend dans 30 minutes, l'inquiétude et l'indignation des autorités sénégalaises concernant les conditions d'expulsion de leurs ressortissants par la Mauritanie.
Oui, c'est en tout cas ce qui ressort d'un rapport parlementaire et de déclaration de la chef de la diplomatie sénégalaise. C'était hier lors d'une plénière de l'Assemblée nationale. Devant une commission parlementaire, Yacine Fall a évoqué des traitements inhumains subis par les personnes arrêtées et rapatriées depuis la Mauritanie. Nous parlerons aussi de cette nouvelle scène de massacre de civils au Burkina Faso, massacre perpétré en début de semaine dans l'ouest du pays par des militaires contre des communautés soupçonnées d'être de mèche avec des terroristes. Et puis nous reviendrons également sur la tournée du président ghanéen John Dramani Mahama dans les trois pays de l'Alliance des États du Sahel, le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Le dirigeant ghanéen a affirmé la nécessité que la CDAO, la communauté ouest africaine, reconnaisse la nouvelle alliance.